Bonjour à tous. Dans peu de temps, je devrais vous voir quand la buée des lunettes sera partie. Bon, c'est très émouvant pour moi que d'être ici, parmi vous, devant vous, pour apporter la parole, parce qu'effectivement, ça a été dit, je suis issu de cette église. Certains s'en rappellent peut-être, il y a un peu de Larsen. De moins en moins de gens s'en rappellent, et quelque part ça me réjouit parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde, que des gens arrivent, font vivre cette église, mais moi je m'en rappelle. J'ai effectivement été baptisé il y a bien longtemps parmi vous, et donc c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que je suis là aujourd'hui. Cette communauté m'a soutenu aussi dans mes études, j'y ai encore de bons amis, et même si effectivement, le temps et la distance changent un peu les relations. Dans mon cœur, c'est toujours pareil pour vous. Je vais, avant d'apporter le message, avant de prêcher, je vais d'abord vous témoigner de la fidélité du Seigneur, parce que j'ai pas le choix, il me le demande. Et aussi parce que certains d'entre vous savent que mon père souffrait plus exactement d'un cancer du pancréas depuis presque 2 ans. Et je me retrouve donc ici en pastorale, en Auvergne, alors que je suis maintenant pasteur à Chambéry, alors c'est pas si loin, mais quand même, ce week-end, et c'est le week-end où le Seigneur a décidé de rappeler mon père. Ça s'est passé hier soir. Et voilà, je veux rendre grâce à Dieu, en fait, parce que du coup, j'étais à 45 minutes de route de l'endroit où il se trouvait et j'ai pu aller lui rendre visite avec mon épouse avant qu'il décède. Et je suis très reconnaissant pour ça, très reconnaissant parce qu'évidemment, cette pastorale, elle n'a pas été fixée en fonction de sa date de décès, hein. Elle a été fixée depuis de longs mois déjà, mais le Seigneur sachant toutes choses, c'est comme ça que les choses se sont passées. Ensuite, pourquoi je prêche ce matin? Parce que, évidemment, vous vous doutez bien que les collègues ont dit, mais si tu veux, on te remplace au pied levé, t'inquiète pas, c'est pas un souci. Et bien, je le fais pour 2 raisons. La première, c'est parce que je suis devant vous en frère. Je me sens en famille parmi vous, c'est en famille que je suis, et si je dois pleurer en famille, ça ne me dérange pas, en fait. La deuxième, on l'a chantée ce matin, je l'ai notée, cette phrase, je me suis dit, bah ouais, c'est ça. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Christ est ma joie. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Christ est ma joie. Et ça, c'est quelque part cette église qui me l'a apporté, c'est votre communauté qui m'a apporté ce témoignage-là il y a plus de 15 ans. Et comme j'en vis encore aujourd'hui, ça me semblait bien juste et bon de me présenter devant vous. Alors, je vais commencer par un aveu sur un sujet sensible pour lequel je veux me décomplexer. Cette prédication, c'est du réchauffé. Ça ne se dit pas, hein. Et non seulement vous n'êtes pas les premiers à l'entendre, mais en plus je ne suis même pas allé la chercher dans les anciennes, dans les toutes vieilles oubliées de tous, y compris de moi-même parfois. Non, cette prédication, je l'ai donnée il y a 2 semaines seulement, et à peine sortie du four, hop, je la réchauffe pour vous l'amener ce matin. Mais j'ai de bonnes raisons, en tout cas je crois, j'espère, vous me direz ça à la fin. Et d'ailleurs, de bien des manières, elle fait aussi écho à ce que je viens de vivre, ce qui me montre là encore la fidélité du Seigneur. En tout cas, si je vous l'amène, c'est parce que je la crois évidemment pertinente pour votre Église, et non seulement pour vous ici, mais aussi pour plusieurs églises baptistes de la région ici représentées, parce que cette prédication parle de renouveau, elle parle de changement. Et on est nombreux dans notre région à être en plein dedans en ce moment même. À commencer par ici, évidemment, Ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin des changements que vous avez traversés. Il y a un architecte qui l'a fait pour moi. Mais même si c'est une super étape, vous savez sans doute que c'est sans doute pas tout à fait fini parce qu'au-delà des locaux, il y a aussi tout ce qu'ils impliquent. Est-ce qu'on peut vivre l'Église, le culte, de la même façon ici que dans la petite salle de la rue Guynemer ? Probablement pas. Des choses changent, forcément. Elles sont en train de changer. D'autres vont encore changer. À Lyon, ça bouge aussi. Le pasteur Erwan Cloarec, qui est ici, a été appelé à la présidence du CNEF, donc il va s'envoler vers de nouveaux horizons l'été prochain. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie pour l'Église, mais c'est évidemment une étape aussi, pour elle comme pour lui. Au Puy-en-Velay, l'Église a accueilli sa nouvelle pasteur, Elvira Gris, là aussi, il y a du mouvement. À Chambéry, où je viens tout juste d'arriver comme pasteur, à la suite du départ à la retraite d'un collègue que beaucoup d'entre vous connaissent bien, puisque c'était le pasteur Samuel Pereira. Et là encore, du mouvement, du changement. Et partout où il y a du changement, il y a une tension qui s'installe entre l'existant, c'est-à-dire entre ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours vécu, la manière qu'on a eu de faire les choses, et puis ce qui est à venir. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'on va être secoué ? Est-ce que notre vécu, notre histoire passée va être respectée ? Ou est-ce que ça va être tout balayé ? Et puis de l'autre côté, il y en a peut-être qui se disent « J'espère bien que ça va être comme ça, oui. Enfin, ça bouge. Si c'est pour rester comme avant, à quoi ça aura servi tout ça ? Du passé, faisons table rase. » Et le texte que le Seigneur m'a mis à cœur, non seulement pour l'Église de Chambéry, mais pour nous tous ce matin, parle de cette tension entre ce qui a été et ce qui est à venir. Et il nous aide, je crois, à nous placer de façon juste dans l'histoire de notre Église, une histoire qui nous a précédés et qui peut-être même nous survivra, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Et se placer de façon juste dans l'histoire de l'Église locale, c'est important. C'est important parce que cette histoire, elle n'est pas anecdotique. Vous n'êtes pas ici comme vous pourriez être ailleurs. C'est l'histoire de l'œuvre de Dieu, là où nous nous trouvons. Et en conséquence, on n'est pas tout à fait libre d'en faire ce que bon nous semble. Et on a besoin chacun de savoir où on se situe, où on se trouve dans cette histoire, dans la grande histoire de Dieu, qui est, rappelons-le, le vrai et en fait l'unique bâtisseur de l'Église. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43. Je vais lire les versets 14 à 21. Et pardonnez-moi si je me mélange un peu les pinceaux dans les traductions, parce qu'en fait, j'ai dû partir hier un peu précipitamment, j'ai oublié ma Bible, donc ce n'est pas ma Bible que j'ai là. Je vais lire dans la Bible du Semeur, mais il est possible qu'au cours de la prédication, je cite la NBS, alors que ça ne vous trouble pas de trop. Ésaïe 43, les versets 14 à 21, qui nous disent ceci. Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi, le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires même où ils criaient de joie. Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi dit l'Éternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin, et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il publiera ma gloire. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te prie d'ouvrir notre entendement, notre compréhension, pour que, plus qu'avec notre tête, nous puissions la comprendre avec nos tripes et qu'elle nous mette en mouvement. Amen. Ésaïe, c'est un prophète du royaume de Juda qui a vécu à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et à son époque, c'est l'Empire assyrien qui domine toute la région. Et pourtant, ici, c'est la chute d'un autre empire qu'il prophétise, l'Empire babylonien. Alors, vous connaissez peut-être les grandes lignes de l'histoire du peuple d'Israël, sinon je vais vous les brosser à grands traits pour justement qu'on arrive à se situer un peu dans l'histoire. Vous avez d'abord, en 930 avant Jésus-Christ, la division du royaume unifié en deux, suite au règne de Salomon, du fait de son idolâtrie. Ce royaume d'Israël est divisé en deux, avec d'un côté le royaume qu'on appelle le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui aura Samarie pour capitale, et puis de l'autre, le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem pour capitale. Un peu plus tard, en 722, ce royaume du Nord, il chute devant l'Empire assyrien. Et puis, un peu plus tard encore, c'est l'Empire assyrien qui va chuter à son tour devant un autre empire qui prend de l'ampleur, l'Empire babylonien. Et cet Empire babylonien, il va en quelque sorte finir le travail de son prédécesseur, il va s'emparer en 585 du royaume du Sud. Donc à ce moment-là, Jérusalem tombe aux mains de l'envahisseur, le temple est détruit, et Israël, en tant que nation, est rayée de la carte. Elle devient une province de l'Empire babylonien qui, pour freiner toute envie de rébellion, va déporter une partie de la population à Babylone, en commençant par les cadres et les notables. Alors, dit comme ça, c'est vite dit, mais évidemment, c'est un désastre national, déjà parce qu'il n'y a plus de nation en tant que telle. Et puis, c'est aussi un désastre spirituel parce que le temple est détruit, le lieu même de la présence de Dieu pour le peuple d'Israël est détruit. Et donc, on ne peut pas exagérer l'ampleur de ce désastre. Mais dans notre texte, Ésaïe voit plus loin. Il voit que Babylone va chuter à son tour, que cette situation ne va pas perdurer indéfiniment. Au verset 14, « Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi le Saint d'Israël, c'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient. » Dans ma traduction, dans la NBS, c'est écrit « C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone ». C'est même encore un peu plus précis, ce quelqu'un, on sait qui c'est Cyrus, l'empereur perse, qui va effectivement écraser l'Empire babylonien en 539 et qui va permettre aux Juifs en fait, de revenir sur leur terre et de reconstruire le temple. Qui est le Seigneur ? Qui est-il, ce Dieu créateur d'Israël ? Eh bien, il est ce Dieu puissant, ce Dieu sauveur, nous dit le verset 16, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés, ils ne se relèveront pas, ils se sont consumés, ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Autrement dit, Ésaïe rappelle ici au peuple ce que Dieu a fait dans le passé. Il rappelle cette grande épopée de la sortie d'Égypte, cette traversée de la mer Rouge, ce moment où il a délivré son peuple du joug de l'Égypte qu'il avait réduit en esclavage. Et je trouve assez amusant parce qu'il leur rappelle ça, il leur met ça devant les yeux, et juste derrière, il leur dit quoi ? Ne vous rappelez pas le passé. Ne considérez plus ce qui est ancien, je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe, ne le savez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis façonné dira ma louange. C'est une petite parenthèse, mais me permet de la faire parce que je la trouve intéressante. Je trouve intéressante ma propre prédication, c'est très beau. Quand Dieu agit pour son peuple, ça ne bénéficie pas qu'à son peuple. S'il fait passer de l'eau dans le désert, le peuple peut boire, évidemment, mais ici, même les animaux sauvages, on nous dit ici, vont louer le Seigneur, lui rendre gloire, parce qu'il y a de l'eau qui coule là dans le désert. Ce n'est pas pour eux que Dieu le fait, c'est pour son peuple, mais il y a un effet collatéral. Et je trouve intéressant de réfléchir à ça, aux effets collatéraux des bénédictions que nous recevons du Seigneur. Et j'en vois une belle autour de moi ici, une belle bénédiction reçue du Seigneur. De quelle manière est-ce que ça bénéficie aussi de manière collatérale aux gens qui nous entourent, à ceux qui sont dans le désert, dans la terre aride, alors que le Seigneur nous a comblés de son eau et de sa source vive. C'est la petite parenthèse, parce qu'en fait, ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce dont ce passage nous parle, je crois, il nous enseigne deux vérités essentielles, deux vérités qu'il nous faut embrasser pour aller de l'avant de façon juste quant à l'histoire de notre Église, quant à cette fameuse tension entre ce qui a été et ce qui est à venir. Et la première de ces vérités, c'est que nous appartenons à une histoire. C'est important de se rappeler que nous appartenons à une histoire, la grande histoire du peuple de Dieu. Et c'est ce que fait Ésaïe ici, il rappelle au peuple la sortie d'Égypte, il lui rappelle le récit épique de l'intervention divine. Et parfois on imagine le peuple de Dieu de l'Ancien Testament comme une espèce de réalité unique, une entité homogène. Mais en fait, l'histoire qu'on lit dans l'Ancien Testament, évidemment, s'étale sur des dizaines de siècles. Et donc, quand on parle du peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte et qu'on parle du peuple de Dieu qui entre en Canaan, c'est bien le peuple de Dieu, c'est le même peuple, mais ce n'est pas les mêmes personnes. C'est pour ça que moi, je me sens ici en famille, alors que plein d'entre vous, vous ne savez même pas qui je suis. Moi, je sais où je suis, en tout cas. Et là, il faut se rendre compte, qu'Ésaïe s'adresse là à des gens qui n'ont pas vécu eux-mêmes dans leur chair la sortie d'Égypte. Ils n'ont probablement jamais mis les pieds en Égypte. Ils n'ont pas personnellement connu Moïse, ils n'ont pas entendu les cris guerriers des Égyptiens qui les poursuivaient. Ils n'ont pas vu de leurs yeux les eaux de la mer Rouge se séparant en deux. Ils n'ont pas vu comment elles se sont refermées sur leurs ennemis. Ça, c'est leurs ancêtres qui ont vécu tout ça. Mais c'est quand même leur histoire. Ésaïe leur met ça sous les yeux parce que c'est quand même leur histoire. C'est leur histoire à eux aussi, eux qui se trouvent confrontés non aux Égyptiens mais aux Babyloniens, eux qui vivent des siècles plus tard dans un contexte avec, c'est vrai, des similitudes, mais quand même très différent. C'est leur histoire parce que c'est l'histoire du peuple de Dieu duquel ils font partie tout comme leurs ancêtres. C'est notre histoire d'une certaine façon aussi. Et aussi parce que Dieu ne change pas. Ce que Dieu a fait, il le fera encore. Donc ça nous concerne, cette histoire de la sortie d'Égypte. Les Israélites qui ont fui l'Égypte, c'était le peuple de Dieu. Les Juifs exilés à Babylone étaient le peuple de Dieu. Et nous, qui sommes issus, je pense, pour la plupart des nations païennes, avons été greffés à ce peuple, de sorte que nous sommes avec eux le peuple de Dieu. Et Dieu, dans la Bible, nous offre une narration, une histoire. C'est fascinant, moi ça me fascine. C'est l'histoire de la relation de son peuple avec lui. Et ce qu'il nous dit, c'est « ce que j'ai fait, je le ferai encore, parce que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Nous sommes le peuple de Dieu. Qui bâtit l'Église ? C'est Dieu. C'est lui qui bâtit son Église, non seulement au sens large, mais aussi au sens très pratique et local. C'est lui qui bâtit l'église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand, de Chambéry, du Puy-en-Velay, d'Annecy, de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble. De telle façon que l'histoire de nos églises locales, c'est notre histoire. Si Ésaïe croit bon de nous rappeler que la sortie d'Égypte qui a eu lieu il y a plusieurs millénaires fait partie de notre histoire, à combien plus forte raison devrions-nous nous intéresser à l'œuvre que Dieu a accomplie dans notre église locale, avant que nous l'ayons rejoint. Parce qu'elle est l'œuvre de Dieu. L'histoire de notre église est l'œuvre de Dieu. Elle est ce qu'il bâtit lui-même, ce qu'il a bâti. Et des locaux tout neufs peuvent peut-être être trompeurs parce qu'ils peuvent donner l'impression que l'église vient tout juste sortir de terre. C'est peut-être l'avantage des églises catholiques, par exemple, où on sent le poids de l'histoire, chez nous, moins souvent. Mais ce n'est pas le cas, ça ne vient pas de sortir de terre, il y a un passé. Des jalons ont été posés dans le passé, des décisions ont été prises dans le passé. De fidèles ouvriers ont œuvré avant nous et ils ont été guidés, tout comme nous, par l'Esprit Saint. Est-ce que nous connaissons les grandes lignes de l'histoire de notre Église ? Est-ce que nous savons, par exemple, pourquoi ici nous sommes dans une Église baptiste plutôt que réformée ou pentecôtiste ? Est-ce qu'on sait comment cette Église est née, notre Église est née ? Comment est-ce qu'elle a grandi ? Quels ont été les moments clés de son histoire ? Quels ont été les moments clés de l'histoire que Dieu a façonnée parmi nous, ici ? Et ce qu'Ésaïe nous dit ici, c'est que c'est important de connaître cette histoire, parce que l'Église, c'est un corps vivant, et je le répète, elle est l'œuvre de Dieu. La connaître, étymologiquement, c'est naître avec, connaître. C'est bâtir l'histoire commune à partir de ce qu'elle est déjà. C'est par là que tout commence, et c'est aussi la première manière de l'aimer, cette Église. Alors là, il y a peut-être tous les réacs qui disent « Ouais, c'est ça !» Faut rien bouger, rien toucher. Le passé, c'est important. L'histoire, c'est important. Et c'est vrai, c'est important. Mais Ésaïe ne dit pas que ça. Vous l'avez lu et vous l'avez compris. Il offre une deuxième vérité. Et même si je vais l'aborder un peu plus rapidement, elle est aussi importante que la première. Ce que Dieu a fait, il le fera encore. C'est ce que nous dit notre texte. Mais il nous dit aussi qu'il le fera autrement. Ne vous rappelez pas le passé. Ne considérez plus ce qui est ancien, je fais du nouveau, dès maintenant cela germe. Ésaïe vient de rappeler comment Dieu a séparé les eaux en deux pour que le peuple traverse à pied sec. Il y avait de l'eau, ça faisait obstacle, et hop, il n'y a plus d'eau, on peut passer. Mais pour les Juifs écrasés par Babylone, il annonce que là où il n'y a pas d'eau, il va faire couler un fleuve. Dans les deux cas, Dieu libère son peuple de l'esclavage. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Mais ça prend des formes diverses, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est pourquoi Ésaïe nous invite aussi à laisser derrière nous ce que nous pourrions un peu vite considérer comme l'âge d'or de notre Église. Vous savez, ce truc où on se dit « Ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant. » C'est pas par résignation qu'il nous invite à ça. C'est parce que l'âge d'or avec le Seigneur, c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Ce que Dieu a fait, il va le faire encore, mais il le fera autrement. Il le fera autrement si on ne se laisse pas scléroser, enfermer dans de vieux schémas, parce que l'Esprit souffle où il veut, nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Nous devons donc nous laisser surprendre, nous devons oser être surpris. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui comme hier, Dieu intervient pour libérer son peuple. Ça, c'est toujours pareil. Ce qu'on sait également, c'est que le véritable esclavage, c'est pas celui des Égyptiens, c'est pas celui des Babyloniens, c'est celui du péché par lequel Satan nous tient captifs, tient nos contemporains captifs. Mais Dieu, aujourd'hui comme hier, met un chemin dans le désert, il met des fleuves dans la terre aride. Le chemin, on le connaît, c'est Jésus. La source de vie, on la connaît, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour notre péché, ça nous a été rappelé ce matin. C'est lui qui nous libère. Quant à l'art et à la manière, c'est-à-dire quant à sa façon toute personnelle de nous rejoindre au cœur de nos vies et de nos intimités, ben il suffit que vous discutiez entre vous, écoutez les témoignages des uns et des autres, on voit qu'il le fait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. L'Esprit souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le Seigneur ne se laisse pas mettre en boîte. Et en conséquence, on a besoin de discerner continuellement la direction de l'Esprit Saint. On a besoin d'avoir un œil continuel sur où ça germe. Il y a des trucs qui germent. Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit ? Dans l'histoire de nos églises locales respectives, on a d'illustres prédécesseurs. Je suis sûr que chacun peut penser à d'illustres prédécesseurs, des gens qui ont compté dans l'Église, qui ont su être à l'écoute de Dieu, marcher dans les voies nouvelles qu'il ouvrait devant leurs pas. Et ils étaient faits du même bois que nous. Alors comme eux, nous pouvons nous aussi nous inscrire dans l'œuvre de Dieu pour la ville qui nous entoure. Et Dieu, qui est fidèle, refera encore par des voies nouvelles ce qu'il a déjà fait. Je vais prier. Seigneur, nous voulons considérer ton œuvre. Nous voulons nous rappeler que ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église, c'est toi qui l'as bâtie, elle t'appartient, tu es en tête de file et nous suivons, nous marchons dans tes pas, Seigneur. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as déjà fait dans le passé, de tous ces moments où tu as montré ta présence, ta fidélité, où tu as inspiré les bonnes décisions, où tu nous as fait passer par des épreuves aussi, qui ont fortifié la communauté, qui ont peut-être amené à la repentance, qui ont amené à prendre des chemins nouveaux, parce que nous avions peut-être suivi nos propres voies. Nous voulons nous rappeler ta fidélité, ton amour. Nous voulons nous rappeler ton œuvre, l'histoire de nos églises, Seigneur. Parce que c'est l'histoire que toi, tu as écrite, tu as bâtie, tu as inspirée à ceux qui nous ont précédés. Et en même temps, nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans des schémas, parce que tu es un Dieu surprenant. Nous voulons dire et proclamer que ce que tu as fait, tu le feras encore. Tu as, par la proclamation de ton Église, par le message de l'Évangile, appelé des personnes à toi, sauvé des personnes, et tu vas le faire encore. Seigneur, nous ne voulons pas nous accrocher à ces figures du passé, à ces manières de faire du passé. Je te prie simplement que pour chacune de nos églises, tu nous donnes vraiment de voir où ça germe, parce que c'est toi qui fais germer. Où sont ces petites pousses qui sont là, auxquelles nous devons être attentives, pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement. Parce qu'encore une fois, c'est ton œuvre, c'est pas la nôtre. Et nous reconnaissons que nous avons besoin de sagesse et de discernement, de sagesse pour ne pas nous engouffrer dans nos propres projets et du discernement pour voir les tiens, pour voir ce que tu es en train de mettre en œuvre, toi. Et nous te rendons gloire parce que tu es fidèle, parce que tantôt tu ouvres la mer en deux, tantôt tu fais couler des fleuves dans les déserts, mais tu es le même. Et nous nous réjouissons de ce que tu vas encore faire pour ton Église, pour tes Églises, ici dans cette région notamment. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.